Bonjour, nous allons poursuivre dans l'épître aux Romains. Je m'excuse de ce message qui est en playback suite à un problème d'enregistrement ce dimanche. Donc, vous cherchez dans vos Bibles Romains chapitre 5. C'est un texte très riche, hein, les spécialistes des textes grecs le décrivent ainsi. Il est inspiré du Saint-Esprit. Il est trop riche pour qu'en 30 minutes, on puisse puiser à l'intérieur toute sa richesse. Et de toute façon, les capacités du speaker devant vous sont bien insuffisantes. Mais le Saint-Esprit peut nous révéler selon la situation dans laquelle on est, selon les besoins qui sont les nôtres. Il peut nous donner à travers le texte de Romains chapitre 5 ce matin les encouragements peut-être dont nous avons besoin. Alors soyons attentifs et soyons ouverts, curieux. On va maintenant faire la lecture. Juste avant cela, vous allez pouvoir noter au passage l'enthousiasme de l'apôtre. À plusieurs reprises, il emploie cette expression de plus, à plus forte raison. À d'autres endroits, il va souligner cette expression par Jésus-Christ, par son sang, au moyen de la mort de Jésus-Christ, au moyen de la vie de Jésus-Christ, jusqu'à cette fois. Et Jésus-Christ est ainsi placé toujours au centre du propos de Paul, au centre du salut. Nous avons appris dans les passages précédents, Paul nous a appris que le salut ne se méritait pas en aucune manière. Et ici, l'apôtre donne trois motifs de fierté pourtant dans ce texte, et je vous inviterai à les découvrir également lors de la lecture. Je vais faire la lecture dans la Nouvelle Bible Second, chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons, et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, les afflictions, les souffrances, les galères, sachant que la détresse produit l'endurance. On peut traduire aussi persévérance ou patience. L'endurance produit une fidélité éprouvée, une victoire dans l'épreuve, et cette fidélité éprouvée produit l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un mourrait pour un homme de bien. Mais voici comment Dieu met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Car, verset 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils. À plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Bien plus. Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation jusqu'ici. Étant donc justifiés en vertu de la foi. Cette petite expression appelle un petit rappel à ce que Paul a écrit auparavant. Romains chapitre 3, verset 23, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons appris comment être justifié en confessant le péché, en croyant avec une pleine conviction, même si ça semble fou, en croyant que ce que Dieu déclare dans sa parole est vrai. Et la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ est la victime expiatoire et par son sang, nous obtenons le pardon, la purification de nos péchés. Alors, la semaine dernière avec David, nous nous sommes réjouis, nous avons expérimenté le pardon de Dieu et la joie qui l'accompagne, une joie sans équivalent sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La suite, après le pardon de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Paul va maintenant va nous faire faire un tour d'horizon, j'ai appelé ça, du salut et de la vie chrétienne, balayer tout ce qui concerne le salut en quelques phrases. Le titre de ce matin sera « La justification par la foi ou le dessein d'amour envers le croyant ». Alors, ce qui concerne ce tour d'horizon, étant donc justifié par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Dieu, donc, n'est pas en conflit, n'est déjà pas en conflit avec les personnes déclarées justes. C'est de la paix avec Dieu, une paix objective, une paix gracieuse, et une paix qu'il ne nous faut pas perdre de vue, nous expose l'apôtre dans ce court verset. Une paix objective, car elle ne dépend pas de nous, mais seulement de l'œuvre de Jésus-Christ. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Une fois pour toutes, il a accompli le salut. Alors, est-ce que ce matin nous avons la paix de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous ressentons cette paix profonde du pardon en Jésus-Christ? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais peut-être ne la ressentons-nous pas. La paix avec Dieu demeure néanmoins, même si nous n'avons pas le ressenti de cette paix au moment où je vous parle et à d'autres moments peut-être dans le cours de notre vie. Brad Dixon prend une illustration pour illustrer ce propos. Supposez que vous deviez de l'argent à la banque, vous avez des découverts. Qui dit découvert dit, vous savez, lettre de relance, et puis on a l'interdit bancaire qui est là, et il y a toutes sortes de difficultés qui nous prennent la tête. Et là, supposez qu'il y ait un généreux bienfaiteur qui vous mette de l'argent sur le compte, peut-être un ami, peut-être quelqu'un de votre famille, et il vous donne une grosse somme d'argent, ou vous recevez de l'argent, et donc voilà que votre compte devient bénéficiaire, et puis il y a suffisamment de quantité pour que vous ne vous rapprochez jamais maintenant du zéro, vous n'avez plus de problème avec cet arriéré de trésorerie. Autant la banque vous envoyait des lettres de relance avant, autant la banque ne va plus rien vous dire du tout. Pourquoi? Est-ce que vous avez de l'argent sur le compte, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est factuel. Et tous les banquiers qui vous tournaient le dos auparavant vont maintenant vous ouvrir, vous recevoir avec un grand sourire parce que, simplement, vous avez de l'argent sur le compte, vous êtes en paix avec la banque. Et ça vient uniquement de cela. C'est ce qu'on peut illustrer par une paix objective. Une paix gracieuse également. Il n'y a aucun mérite dans cette paix. L'apôtre la décrit comme avoir accès à une grâce particulière. C'est un cadeau et les seuls mérites reviennent à Jésus. Et une paix qui n'est à ne pas perdre de vue. Nous avons quand même une responsabilité, l'apôtre dit, de nous tenir, de tenir ferme. Une paix dans laquelle nous nous tenons. Il s'agit de ne pas courir à droite, à gauche, aller voir ce qui se passe. Ou bien nous avons un ennemi, Satan, qui est le spécialiste pour nous enlever la paix que nous avons avec Dieu, du moins nous enlever le ressenti de cette paix-là, parce qu'il ne peut pas l'enlever, c'est Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Le Satan parle ainsi, hein, vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit, hein, mettre le doute. Tu as encore péché. Certainement, la colère de Dieu va se déclencher contre toi. Fuis, cache-toi. Tu es foutu. Tu as péché. Non, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Parfois, comme on dit, vous savez, cette expression, il me tombe une tuile. Et l'expression qui va avec, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on est chrétien, on n'exprime pas les choses de cette façon-là, mais on dit, oulala, il m'arrive ceci, certainement j'ai péché quelque part. Et Dieu me punit. Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu est en paix avec nous. Notre paix est garantie par le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix et c'est quelque chose de très factuel. C'est une illustration. Vous savez, si vous conduisez, faites de la conduite, si vous avez le permis, vous conduisez peut-être un véhicule et vous avez conduit la nuit. Et la nuit, des fois, vous avez des personnes qui arrivent devant vous en plein phare. Et puis, vous êtes complètement ébloui à ce moment-là. Est-ce que nous allons tourner le volant à droite? Est-ce que nous allons tourner le volant à gauche à ce moment-là? Non. Nous tenons fermement la trajectoire que nous avions en tête avant que le flash n'arrive. Il s'agit de ne pas bouger ni d'un millimètre à droite ni d'un millimètre à gauche. Se tenir dans la paix de Dieu. Le flash, la voiture passe et la visibilité redevient normale. Nous sommes déjà en paix avec Dieu. Ça, c'est un premier point de ce tour d'horizon. Deuxième point. Je lis la suite du texte. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, bien plus. Nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteuse, ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Alors, comment décrire la gloire de Dieu, c'est très difficile à faire. Hein. Il faut être pour cela dans le ciel. L'espérance chrétienne, c'est un jour d'être dans la présence de Dieu, un jour de voir le Seigneur Jésus-Christ. Job l'exprime très bien, un texte vieux de 4000 ans que l'on trouve dans la Bible. Et donc, je veux lire un extrait du propos de Job. Job 19, versets 25 à 27. C'est juste un court passage, il y a 50 chapitres. Donc il discute avec ses amis, du moins il argumente. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job, quand il écrit, quand il dit ces paroles, était dans une terrible souffrance, vous le savez. Et donc, autour d'horizon de la vie chrétienne, il y a les détresses et il y a les souffrances. C'est ce qui est au menu. Jésus-Christ a prévenu ses disciples, vous aurez des persécutions dans le monde. Et Jésus dit également que chacun devait prendre sa croix et le suivre. Et la croix, ce sont des difficultés toutes particulières qui sont pour les chrétiens. Et donc l'objectif de tout cela, démontrer à nous-mêmes et aux autres, démontrer que notre foi est solide, qu'elle résiste aux épreuves. Et donc, quand on fait face à une épreuve, on va ressortir plus patient, on va ressortir plus humble et on va ressortir donc plus apte à servir le Seigneur. On pourrait également, au début de la semaine dernière, nous avions écouté ce chant de Gilles Berbécaud qui décrivait un homme qui était heureux, qui brillait comme un soleil, qui avait des ailes à ses souliers, et il ne supporte pas ça, et il s'en va, au bout d'un moment, dans la chanson. Gilbert Bécaud, enfin, la personne qui est devant le spectacle de cet homme heureux s'en va. Et Dieu veut pas nous laisser, après notre conversion, sur notre petit nuage, parce que quand on est sur notre petit nuage, ben on n'est pas accessible aux gens qui nous entourent. Donc il va nous ramener un petit peu les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, c'est être les pieds souvent dans les difficultés, dans les épreuves, comme les personnes qui nous entourent, finalement. Et ainsi nous sommes rendus accessibles, ainsi elles voient la paix qui nous habite, elle voit la patience, elle voit la foi, et elles sont intéressées d'en savoir davantage, et donc vont tout naturellement venir nous poser, mais qu'est-ce qu'il est, quel est, où il est en plus là? Et ainsi le message de l'évangile se répand et devient crédible. Hein. Mais ce n'est pas à tout cela que fait référence l'apôtre ici. Et il dit précisément le résultat, c'est de faire grandir l'espérance, faire grandir l'assurance qu'un jour on sera devant Dieu. Jacques chapitre 1 verset 2, vous connaissez ce texte, il dit la même chose, hein, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves dans lesquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'apôtre continue ici en nous donnant un avant-goût du ciel. En fait, l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur. À la conversion, l'Esprit-Saint vient habiter le croyant. Et il vient... au moment de la conversion, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais le temps du verbe qui est employé ici, l'Esprit Saint qui nous a été donné, ça marque un aoriste, c'est-à-dire une action ponctuelle. À un moment donné, l'Esprit Saint a été donné. Et c'est quelque chose qui se produit à la conversion. Et l'Esprit Saint verse, déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Et c'est sans doute ce qui fait que le moment de la conversion est un moment unique, où l'on goûte une joie et un bonheur que l'on ne connaissait pas avant. Les épreuves de la vie nous font donc descendre notre petit nuage. Mais avec ces difficultés, ces épreuves, ces persécutions, parfois, nous expérimentons tout particulièrement la réalité de cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Et l'appréciation de son amour va aller en augmentant, et du même coup, l'espérance d'être un jour avec Jésus-Christ dans le ciel va aller, elle aussi, en augmentant. Hein. Donc, c'est une sorte de cercle comme quoi les épreuves et les difficultés vont en fait contribuer à notre croissance spirituelle. Donc, c'était le deuxième point de notre tour d'horizon, l'espérance de la gloire de Dieu pour la vie chrétienne. Au passage qui suit, on est en plein milieu de notre passage, et là, au centre de ce passage-là, l'apôtre Paul nous parle de l'amour. Versets 6 et 8. En effet, lorsque nous étions encore sans force, faibles, malades, c'est ce que ça veut dire, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait le courage de mourir pour un homme de bon. Or voici comment Dieu met en évidence qu'il prouve son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Savoir que l'on est en route pour le ciel, c'est formidable, mais quelle est la... Pourquoi ? Pourquoi Dieu qui habite une lumière inaccessible, qui est tout suffisant, et pourquoi il s'est intéressé à nous ? Ah ben, on le sait ici. C'est par amour. Dieu a tant aimé le monde, écrit l'apôtre Jean, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce pèlerinage de la vie chrétienne, il y a quelque chose que nous devons savoir et nous souvenir. Dieu nous aime. Et cela est mis en évidence à la croix de Golgotha. Dieu a envoyé son Fils pour sauver des pécheurs. Chose que aucun homme ne ferait jamais. Hein. Et donc, c'est la preuve de son immense amour pour les hommes, pour l'humanité, pour le croyant. Et comme Satan veut nous voler notre paix, eh bien, il veut également faire douter de cet amour de nous. Et il avait déjà dit dans le jardin d'Éden, soupçonner que Dieu voulait empêcher l'homme et la femme de prendre de l'arbre de vie parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient comme Dieu et qu'ils connaissent le bien et le mal. Et donc, là, la première mise en question de l'amour de Dieu pour nous a été faite par lui, et depuis, ça continue. Si Dieu t'aimait, il n'aurait pas permis ceci ou cela. Il nous arrive de traverser des moments dramatiques dans notre vie. Le deuil, lorsqu'on perd un parent, lorsqu'on perd un proche. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Jamais on ne doit douter de l'amour de Dieu pour nous. Il y a une autre façon où le besoin de se savoir aimé par Dieu en toutes circonstances est important. Comment est-ce que nous nous voyons à nos yeux, aux yeux des autres? Peut-être nous voyons laid ou trop petit ou trop grand. Et peut-être avons-nous été chanceux dans la vie, peut-être pas. Mais qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Bah, c'est seulement le péché qui nous sépare de l'amour de Dieu. Avant que je sois converti, j'ai rencontré un chrétien qui était sur un fauteuil d'handicapé, qui avait des problèmes graves. Et j'avais pitié de cet homme. Je me dis, oh là là, dans quelle situation il est. Mais en fait, lui était heureux. Pour lui, son handicap, c'était pas du tout un problème. Il avait la paix. Et en fait, les deux personnes, c'était moi. Le misérable, c'était moi qui était à plaindre, c'était moi qui était encore chargé par mes péchés. Des deux, c'était moi qui était à plaindre. Si Dieu nous a aimés quand nous étions souillés par le péché, ce que dit l'apôtre et ce que Dieu a montré, à combien plus forte raison il nous aime lorsque nous sommes purifié, sanctifié par le sang de Jésus, quand nous portons le beau nom de chrétien. L'œuvre de Jésus à la croix est terminée. Jésus est vivant pour toujours. Et nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous aimera toujours, toujours, tout le long de notre périple sur terre. Il nous aimera. Il nous a aimés et il nous aimera toujours. Ça ne changera jamais. Jamais, jamais. Dans notre tour d'horizon, il y a un autre point que prépare l'apôtre Paul. Versets 9 et 10. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Paul évoque ici la fin du voyage, le retour du Seigneur, le jour de l'Éternel, comme la Bible l'appelle. Nous avons lu un petit peu avant dans Romains chapitre 2, comment il fustigeait les moralistes et les hypocrites. Hein. Ainsi, il s'exprimait par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu, le jour de la manifestation de son juste jugement. Et alors, qu'en est-il pour le croyant par rapport à ce jour de la colère de Dieu qui va à venir et qui est devant nous? Qu'est-ce qui se passe pour le croyant? Et Paul, là, est rassurant. Le salut que Jésus a obtenu est parfait. Il nous obtient le pardon de nos fautes. Il nous donne la victoire dans l'épreuve durant notre pèlerinage terrestre. Et il nous sauvera de la colère à venir. De quelle manière serons-nous sauvés de cette colère? L'apôtre n'en dit rien ici. Dans le texte qui suit, il va un petit peu développer la chose. C'est surtout dans d'autres épîtres où on a beaucoup plus d'explications. Il parle de la résurrection des morts, de l'enlèvement des croyants quand ils vont partir à la rencontre du Seigneur. Hein. Il y a ces paroles de Jésus-Christ qui a parlé de cela sur le mont des Oliviers, quand ses disciples lui disaient « Mais quand est-ce que tu vas revenir ?» Et là, il les prévient, il les dit « Quand vous verrez les signes de mon retour, il leur donne des signes de son retour, quand vous verrez les signes de mon retour, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Quand les hommes ont peur, quand les hommes vont être dans la terreur, quand ils dans les événements qui vont précéder le retour du Seigneur, il demande aux croyants de relever la tête. Jésus, il leur a dit, votre délivrance est proche. Sauvé de la colère à venir de Dieu. Ça, c'est pour les temps de la fin. Verset 11, dernier verset. Mais bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, on est parti de la paix au début, premier verset, et là, on vient à la réconciliation, qui sont deux choses, deux idées tout à fait voisines. Et l'apôtre Paul nous ramène un petit peu, après nous avoir fait tout ce grand tour d'horizon, il nous ramène là, dans les choses d'où on était parti. Alors, on ne vivra peut-être pas l'enlèvement de l'Église, mais pour ce qui concerne la paix et la réconciliation, c'est pour maintenant. Ce sont des choses qui sont déjà acquises. La réconciliation est quand même plus forte que la paix. On a des très beaux exemples dans la Bible de réconciliation. Il y a la réconciliation de Joseph avec ses frères. Joseph, ses frères étaient jaloux de lui. Et ils ont voulu s'en débarrasser, qu'il disparaisse, qu'il soit mis à mort. Il avait été sauvé de peu par son frère aîné. Et plus tard, Joseph est en Égypte. Plus tard, ses frères viennent à lui. Et là, Joseph va les réconcilier avec lui. Il va y avoir réconciliation. Il va y avoir la paix, plus aucune crainte de vengeance, de quoi que ce soit. Les frères vont se retrouver tous unis, et même plus que ce qu'ils étaient avant. Il y a également l'histoire du fils prodigue, où le fils s'en va et il revient, et il retrouve son père, et là, le père le réconcilie avec lui, il lui donne l'anneau, il lui donne les habits, et là, le fils sait, ouais, vraiment, ça y est, je suis redevenu pleinement le fils que j'étais. Mon père m'a complètement pardonné, il m'a réconcilié avec lui. Donc, non seulement donc d'ennemis que nous étions, nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous plaçons notre fierté en Dieu. C'est beaucoup plus qu'une simple réconciliation. Il y a un élan envers nous et qui toute notre fierté et toute notre admiration se retrouve tournée vers Dieu. C'est ce que dit l'apôtre ici. Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui maintenant nous a obtenu la réconciliation. Alors là, on a fait notre tour d'horizon du salut. On était dans la joie du salut. On se met à la place d'une personne qui était dans le péché, qui a confessé son péché et qui a reçu le pardon de Dieu dans la joie. Et voilà. L'apôtre Paul a brossé un petit peu pour lui toute la vie chrétienne, hein, et le ramener donc à son point de départ. Quelles sont les applications possibles pour ce passage? Ah ben, je crois qu'il y a une reconnaissance à Dieu qui doit émerger de notre cœur et devant cette si magnifique justification par la foi. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire, de la reconnaissance envers tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'a fait Dieu le Père qu'il a envoyé, tout ce qu'a fait l'Esprit qui est venu daigner et qui est venu habiter en nous, de pauvres misérables pécheurs, et qui a versé dans notre cœur tout cet amour incompréhensible. Merci.